Le simple mot de cimetière a le pouvoir de plonger les pierres blanches des caveaux dans l'ombre de cyprès, de parer le ciel d'un gris sombre et même d'installer la nuit dans un silence de mort que seul vient troubler le croassement des corbeaux survolant ce désert minéral planté de croix rouillées. Il tient bien ouvert les yeux jaunes des chats, noirs de préférence, qui feulent entre les plaques des tombes envahies par le lierre, éteintes les chrysanthèmes de tristesse, les desséchant sous le regard impuissant des portraits en porcelaine. À entendre le mot « cimetière », on en tremblerait presque de peur tant il est chargé de feux follets et de crânes abandonnés. Le cimetière, c'est la mort dans son apparat de marbre et de granit.
Et on oublierait presque qu'il y pousse des pissenlits dont les racines sont supposées nourrir nos défunts.
Si vous entrez dans Terre-Cabade et que vous tendez l'oreille, vous ne risquez pas d'entendre le vent dans les poils d'un loup-garou, mais plutôt le « de la huppe faciée, un bel oiseau d'une trentaine de centimètres coiffé d'une touffe de plumes orangées et aérodynamiques aux extrémités teintées de noir. Son nom ne vient d'ailleurs pas de sa coupe de plumes, mais de son cri. De profil, sa tête ressemble à une pioche, car la courbe de sa huppe se prolonge par son bec long et arqué. Ajoutez à cela son plumage, sable et orangé sur la tête, la partie ventrale et le haut du dos, noir et blanc sur le dos, les ailes et la queue. Vous la reconnaîtrez facilement. Si la huppe faciée traîne par ici de mars à septembre, c'est sans doute qu'elle y trouve une bonne diversité d'insectes et de larves à picorer. Car cet oiseau qui se nourrit uniquement au sol en fouissant a besoin d'une entomofaune, entomo, insecte en grec, riche et variée. Et regardez, là-bas, un écureuil roux. Il est encore en train de boulotter des cônes de cyprès, des petites boules qui semblent façonnées dans une carapace de tortue. Des cyprès, il y en a beaucoup dans le cimetière. Et pour cause, dans les mondes méditerranéens, c'est un arbre associé au deuil et à la vie éternelle. C'est d'ailleurs le bois généralement utilisé pour les cercueils des papes. Dans notre imaginaire, au milieu des allées en gravier, des rangées de tombes et de monuments funèbres, c'est un peu la seule plante à laquelle on pense. Cimetière rime souvent avec espace aride, minéral, où le soleil et le froid viennent chacun leur tour frapper la pierre omniprésente. Et pour cause, on a longtemps cherché à maîtriser ce milieu, à le maintenir stérile de toute vie non désirée. Car laisser le lierre grimper, l'herbe pousser, les animaux s'installer, aurait pu donner une impression de négligence. Or, on n'abandonne pas nos morts. On a donc gratté les lichens, tondu les herbes, bataillé contre les sauvages, notamment à coups de chimie. Résultat, dans beaucoup de ces cimetières minéralisés, l'été, il faisait en moyenne 3 degrés de plus qu'ailleurs dans la ville. J'en parle au passé, car si le côté minéral reste une caractéristique des cimetières, ces dernières années, ils ont quand même bien changé. En 2022, la loi Labbé qui réglemente l'utilisation des produits phytosanitaires y est applicable. Désormais, dans tous les lieux fréquentés par le public ou à usage collectif, tels les stades, utiliser des produits phytosanitaires, herbicides, fongicides, insecticides, etc., est interdit. On y développe ainsi de nouveaux modes de gestion, avec des fauches moins systématiques, des tontes moins rases et un peu de laisser-faire. Cela s'inscrit dans une tendance générale qui consiste à considérer les cimetières autant comme des lieux symboliques que comme des espaces de promenade, des parcs propices au déploiement d'une biodiversité. On pense désormais les cimetières dans ce qu'on appelle la trame verte, un ensemble d'espaces verts liés entre eux, de sorte à assurer la continuité des milieux pour toutes les espèces, afin qu'elles puissent circuler et s'alimenter, se reproduire, se reposer, en deux mots, assurer leur cycle de vie. Baladez-vous dans Terre-Cabade et observez. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce lieu de recueillement abrite un impressionnant cortège d'êtres vivants. Il faut savoir que les cimetières sont des espaces de recomposition des strates végétales. Observez un peu comment le calcaire d'une concession à l'abandon s'effrite à mesure que le saxifrage à trois doigts, aussi appelé perce-pierre, s'en prend à lui. Saxifrage vient du latin saxum, rocher, et frangere, briser, tout un programme. C'est comme si cette petite plante à la tige rougeâtre, aux feuilles à trois lobes, couverte de poils collants et dont la couleur varie du vert à rouge, comme si cette petite plante aux fleurs blanches et délicates rejouait la grande histoire du vivant en colonisant ce milieu aride et en y créant les conditions adéquates pour qu'une autre plante plus exigeante puisse s'y installer et inviter d'autres espèces, notamment animales, butineurs, prédateurs, parasites, pour que se déploient les différents étages de végétation comme autant d'habitats et de garde-manger. Dans ce cimetière, on peut ainsi observer les quatre strates végétales. La strate bryolichénique, les mousses et les lichens, la strate herbacée, les herbes, à laquelle appartient notre saxifrage, la strate arborescente, les arbustes, et enfin la strate arborée, les arbres. Or, à Terre-Cabade, nous en avons un de remarquable d'arbre. Un magnifique micocoulier de 30 mètres de haut et 4 mètres de circonférence. Un record! Allez donc lui rendre visite en haut du cimetière. Il est coincé entre deux tombes. Les plantes qu'on trouve ici sont des génies de l'adaptation. Regardez plutôt comment certains figuiers ont enroulé leur tronc au caveau. Comment un sapin d'Espagne, déjà rare à pousser par ici, a réussi à se développer à partir de semis sur un toit de concession. Dans ce milieu très minéral, on n'a pas de prairies. Et certains matériaux funéraires, comme le granit, recommandé par les professionnels pour sa forte résistance à l'érosion, rendent la vie dure à qui n'est pas xérophile, amatrice du milieu sec, comme l'est la sabline à feuilles de serpolet. Et puis, il faut que les graines fassent leur chemin parmi les tombes ou dans les fissures des pierres. Et à ce jeu, certaines plantes, comme la cardamine hirsute, sont championnes. La cardamine ressemble à du cresson. Elle a une base velue en rosette. Ses feuilles au sol forment un cercle et peut mesurer jusque 25 cm de haut. Elle arbore de petites fleurs blanches à 4 pétales, puis une grappe fructifère assez longue et dressée. Ses fruits s'ouvrent brutalement, de manière explosive, en projetant ainsi leurs nombreuses et fines graines à une longue distance. L'idée est ainsi de multiplier leurs chances de trouver des endroits propices où germer dans ce milieu hostile. Si l'on y prête un peu attention, on se rend vite compte qu'il existe ici différents milieux, voire micro-milieux. Prenez les ornements funéraires, dont les barbotines, souvent des fleurs en porcelaine. Certaines retiennent l'eau de pluie et créent ainsi de toutes petites zones humides, parfois même des micro-mares où l'on peut trouver des mousses et des fougères, comme la doradille des murs. À plus grande échelle, si vous ouvrez bien l'œil, vous pourrez voir sortir d'un caveau gorgé d'eau un arbre à qui il ne déplaît pas d'avoir les racines qui baignent. Un saule marceau. Moins assujetti au milieu humide que ses semblables, celui qu'on appelle parfois le saule des chèvres, Salix caprea, est considéré comme une espèce pionnière, une des premières espèces à coloniser des espaces écologiques jusque-là dépourvus de vie. Ces espèces ouvrent la voie aux autres, car elles sont capables de résister au stress, eau, luminosité, chaleur ou froid intense, forte ou faible teneur en nutriments. Mais aussi parce qu'elles ont une croissance rapide et des stratégies de reproduction efficaces. Autres espaces, autres espèces. Dans les entretombes, on trouve de toutes petites zones herbeuses dans lesquelles vous pourrez rencontrer toutes sortes de plantes. L'étron, orge d'Héra, valériane, mauve, achillée millefeuille, sorgho d'Alep, folle avoine, flouve odorante. On trouve même des violettes odorantes qui aiment les sols frais. Et certaines de ces plantes viennent avec leur cortège de butineurs, abeilles sauvages, papillons, syrphes, les petites mouches au vol stationnaire. Et encore, nous ne parlons ici que des petites spontanées. Mais on trouve au cimetière un grand nombre d'échappées. Plantées pour rendre hommage aux défunts ou en ornement, elles se sont ensauvagées. Muscaries, cyclamen, joubarbe. Et pour couronner le tout, un olivier. Probablement issu d'un noyau craché par des promeneurs ou transporté par un oiseau frugivore et qui a réussi à se développer. Une curiosité qui en dit long sur le réchauffement des températures. Mais assez planter les yeux au sol, fermez-les un moment et écoutez. Le paysage du cimetière est aussi très sonore. Vous entendez ce chant mélodieux fait de sons flûtés et se terminant par des gazouillis ou de légers grincements? C'est un merle noir. Chaque mâle a son propre répertoire. Dans cet orchestre, le pivert s'occupe principalement des percussions. Quand ce n'est pas avec son chant, une même note répétée rapidement une dizaine de fois décrescendo, c'est via le martèlement de son bec contre les troncs et les branches. Une technique utile pour manger et travailler à sa loge. Des pouillots participent aussi au concert, dont le pouillot de Bonelli, qui dissimulant sa dizaine de centimètres dans les frondaisons, lâche ses trilles sonores. Il faut dire que les cimetières sont des espaces refuges. Relativement préservés du bruit de la ville alentour, pas si fréquentés par les humains, ils ont aussi la particularité d'être plongés dans l'obscurité la nuit, ce qui est plutôt rare dans l'espace urbain. Alors, après la tombée du jour, à Terre-Cabade, on entend la chouette-hulotte. Vous savez, c'est celle dont on fait retentir le ululement dans les films ou podcasts pour signifier qu'on est la nuit. Ce petit rapace trapu a une tête bien ronde et un masque facial plat où s'imposent deux gros yeux. La hulotte vit en moyenne 18 ans et reste fidèle à son nid. C'est un redoutable prédateur pour les petits rongeurs du cimetière, mais aussi pour les chauves-souris, à l'affût des nombreux moustiques qui pullulent, car l'eau s'infiltre et stagne dans les tombes sans qu'il y ait de réels prédateurs pour leurs larves. Outre les chats, véritable danger pour tout un tas d'espèces, on trouve ici plusieurs mammifères, dont des petites boules d'épines solitaires aux populations en déclin, les hérissons d'Europe. Ces petits habitants de la nuit se faufilent entre les tombes, libérant malgré eux, par le léger frottement de leur corps au sol, l'odeur mentholée des calamans qui poussent sur leur chemin, ou celle plus citronnée de la mélisse. Car en plus d'être sonore, le cimetière est un régal pour les narines. Or, notre hérisson, s'il ne s'intéresse pas trop à la flore, a un puissant odorat qui en fait un très bon chasseur. Ce qui est heureux, car non seulement il est myope comme une taupe, mais c'est un véritable ventre sur pattes. Il raffole des escargots, mais peut aussi très bien manger des vers de terre, perce-oreilles, petits coléoptères, à moins qu'un oisillon ou un jeune rongeur ne soit tombé du nid. Tout ça fait du monde, et ce n'est qu'un maigre aperçu. La mutation des cimetières est en cours en France, comme dans beaucoup de pays européens, et il se pourrait bien que de nouveaux venus viennent enrichir encore cette diversité d'habitants.